VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 3 février 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. Le pape aujourd'hui au Soudan du Sud, hier à Kinshasa, il a invité les jeunes Congolais à être acteurs de l'avenir de leur pays, en proie au chômage et à des violences endémiques. Au Cameroun, arrestation de plusieurs personnes dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko ne s'est pas présenté ce jeudi devant un tribunal de Dakar pour un procès en diffamation. Ici à Washington, les républicains au Congrès expulsent de la Commission des affaires étrangères la démocrate Ilhan Omar, accusant l'immigrée somalienne de remarques antisémites par le passé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au terme d'un séjour marqué par une ferveur nourrie et des appels répétés à la paix, le pape François achève ce vendredi sa visite en RDC pour rejoindre le Soudan du Sud. À Kinshasa, le souverain pontife a multiplié les condamnations des violences meurtrières à l'Est, appelé les dirigeants à mettre fin à la corruption et les jeunes à être acteurs de l'avenir du pays. Après un dernier discours devant les évêques, il doit s'envoler pour un pèlerinage de paix au Soudan du Sud, à majorité chrétienne, dévasté par une guerre civile sanglante et parmi les plus pauvres de la planète, Lionel Gahima.
La population et la communauté internationale espèrent que la visite du pape pourra redonner de l'élan au processus de paix. « Je veux croire que cette visite sera un tournant », affirme le père James Oyet Latancio, secrétaire général du Conseil des Églises du Soudan du Sud. La communauté internationale, qui craint que la fragile et interminable transition du pays ne s'effondre cette année, espère que François aura plus de chances de faire passer le message. Cette visite montrera que tout est possible, le changement est possible et la transformation est possible, espère le père Latancio. Selon des observateurs, le président sud-soudanais Salva Kiir, fervent catholique qui a été particulièrement ému par le geste du pape au Vatican, est plus susceptible d'être le plus sensible au message du pape. En 2019, un an après un accord de paix, le pape avait reçu les deux frères ennemis Salva Kiir et Riek Machar au Vatican. Il avait embrassé les pieds des deux dirigeants, aujourd'hui au pouvoir dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Votre peuple aspire aujourd'hui à un avenir meilleur qui ne peut se concrétiser que par la réconciliation et la paix, avait-il lancé.
Au Cameroun, la présidence de la République a annoncé hier dans un communiqué l'arrestation de plusieurs personnes dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dont le corps a été retrouvé mutilé 6 jours après sa disparition, de Yaoundé Emmanuel Julenta.
Le communiqué du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, indique, je cite, « Les personnes arrêtées sont fortement suspectées dans ce crime odieux ». Fin de citation. Leurs auditions sont encore en cours par une commission d'enquête mixte de la gendarmerie et de la police, renseigne le dit communiqué. D'après la présidence camerounaise, d'autres personnes sont recherchées et des poursuites judiciaires vont suivre afin d'établir l'identité de toutes les personnes mêlées à un titre ou à un autre à l'assassinat du journaliste. Martinez Zogo, chef de chaîne d'Amplitude FM, une radio urbaine de la capitale, a été enlevé le 17 janvier. Sa dépouille ayant visiblement subi d'importants sévices corporels, selon le ministre de la Communication, a été retrouvée 6 jours plus tard sur un terrain vague en banlieue de Yaoundé, en état de décomposition avancée. Martinez Zogo est mort à 51 ans. Il a dénoncé peu de jours avant sa disparition les détournements présumés de fonds à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA impliquant des membres du gouvernement et leurs proches. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko s'est abstenu de se présenter hier devant un tribunal de Dakar. Il était attendu pour un procès en diffamation dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle de 2024, Mohamed Oumfa.
Appelé à comparaître jeudi, Ousmane Sonko ne s'est pas présenté. Des images diffusées par Jotna, sa télévision, l'ont montré jouant au ballon entouré de ses gardes de corps dans une rue près de chez lui dans un quartier de Dakar et quadrillé par les forces de l'ordre. Ses avocats ont déclaré au tribunal que leur client n'avait pas reçu de convocation, argument contredit par le parquet et les conseils du plaignant, un ministre. La défense a aussi demandé un renvoi du procès pour approfondir le dossier. Le procès a été reporté au 16 février. M. Sonko est poursuivi par le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang, également un responsable du parti présidentiel, pour diffamation, injures et faux. Le ministre, présent à l'audience hier, lui reproche d'avoir déclaré en décembre que sa gestion a été épinglée dans un rapport d'une institution de contrôle sur le programme de développement des domaines agricoles communautaires, ce qu'il nie. Depuis 2 ans, M. Sonko, troisième à la présidentielle de 2019, est candidat à celle de l'an prochain et aussi convoqué en justice dans une autre affaire de viol présumé qui défrait la chronique. M. Sonko crie au complot destiné à l'écarter de la présidentielle et à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir du président Macky Sall, ce que ce dernier réfute.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme sur la situation des déplacés internes au Mali. L'agence onusienne estime que plus de 440 000 personnes déplacées ont besoin d'une aide d'urgence. Le pays abrite aussi plus de 40 000 réfugiés venant du Burkina et du Niger. Pour en savoir plus, Mariam Kouyaté s'est entretenue avec Mohamed Askia Touré, représentant du HCR au Mali.
Les localités les plus touchées, bien entendu, il faut le replacer dans son contexte, avec le départ notamment des troupes de Barkhane et de Takuba, notamment dans la région des trois frontières. Donc l'insécurité s'est énormément aggravée dans cette région-là, donc dans la région des trois frontières. Donc la conséquence immédiate est que les personnes se déplacent du fait des conflits qui existent entre les groupes djihadistes, entre elles, bien entendu. Et toutes ces personnes se déplacent aujourd'hui et nous avons des pôles de concentration de population qui sont surtout autour de Menaka, autour de Gao, autour de Timbuktu, Kidal et Gao. Donc la plupart de ces personnes arrivent dans des endroits où elles n'ont aucun abri, aucune assistance alimentaire qui doit les aider. Bien entendu, ça c'est des besoins immédiats qui sont visibles, mais au-delà de ça, il va sans dire qu'il y a des besoins de protection immenses. Donc on se retrouve avec des enfants, souvent orphelins, on se trouve avec des femmes veuves, des femmes seules, parfois victimes, qui ont été victimes de viols, victimes de violences, etc. Donc je pense que se trouve dans des situations excessivement dangereuses, excessivement pénibles, et donc voilà leurs besoins qui se posent.
Mohamed Askia Touré, représentant du HCR au Mali. Le Soudan et Israël se sont mis d'accord ce jeudi pour la normalisation de leurs relations et un traité de paix lors de la première visite officielle d'Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, à Khartoum. Ce traité sera signé après le transfert du pouvoir au Soudan à un gouvernement civil qui sera établi dans le cadre du processus de transition en cours dans le pays, a indiqué M. Cohen.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants que contrôlent les Républicains a adopté ce jeudi une motion pour expulser l'élu démocrate Ilhan Omar de la puissante Commission des Affaires étrangères, Jean-Roger Bion.
Dépossédé de son rôle à la Commission des Affaires étrangères, cette ancienne réfugiée somalienne est accusée d'avoir émis plusieurs commentaires critiques d'Israël depuis 2012, des propos condamnés au sein des deux partis. « Je suis musulmane, je suis une immigrée et comme par hasard je viens d'Afrique », a réagi l'élu de l'aile gauche du Parti démocrate avant le vote. Ilhan Omar est la troisième élue démocrate à être dépouillée de son siège dans une commission parlementaire cette année. Selon les républicains qui dominent maintenant la Chambre, les démocrates, lorsqu'ils avaient le contrôle, avaient expulsé Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar de certaines commissions, les accusant d'avoir appelé à la violence contre leurs opposants politiques. Ilhan Omar, l'une des deux femmes musulmanes du Congrès, s'était excusée en 2019 après avoir émis l'idée que le soutien républicain à Israël était alimenté par les dons financiers d'un lobby pro-israélien. Selon Hakim Jeffries, chef des démocrates à la Chambre, les remarques d'Ilhan Omar ont déjà fait l'objet de procédures disciplinaires appropriées et qu'il s'agit, selon lui, d'une vengeance politique.
Toujours à Washington, le Pentagone a indiqué ce jeudi suivre à la trace les mouvements d'un ballon espion chinois volant à haute altitude au-dessus du territoire des États-Unis et de sites militaires sensibles, précisant qu'il ne représentait pas de menace directe. Le gouvernement du Canada a évoqué ce vendredi un deuxième incident potentiel après l'annonce de Washington. Les Canadiens sont en sécurité et le Canada prend des mesures pour assurer la sécurité de son espace aérien, y compris la surveillance d'un deuxième incident potentiel, a affirmé le ministère de la Défense nationale du Canada dans un communiqué. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, le gouvernement a proposé une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti de 36 000 à 41 850 francs CFA. Cette proposition de hausse salariale de 5,2% sera examinée avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale consultative de travail. Les syndicats préconisaient une revalorisation du SMIG nettement supérieure entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Le Maroc a signé 3 accords de partenariat dans le domaine de la pêche avec la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Libéria à l'occasion d'une rencontre sur l'initiative de la Ceinture Bleue à Agadir. Le pays mettra à disposition son nouveau navire océanographique et des scientifiques de l'Institut national de recherche halieutique pour prospecter en zone économique exclusive de ces pays.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Eric Maniratiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
L'Algérie et le Sénégal s'affrontent demain samedi en finale du CHAN 2022.
Les deux pays vont tenter de remporter le championnat d'Afrique des Nations pour la première fois de leur histoire. Les Fennec ne sont plus qu'à 90 minutes d'un titre inédit au coup d'envoi de la finale prévue au stade Nelson Mandela d'Alger. À domicile, les Algériens se sont qualifiés pour la première finale de CHAN de leur histoire et ont largement battu le Niger mardi en demi-finale, 5-0. De son côté, le Sénégal a l'opportunité de réaliser un doublé inédit dans l'histoire du football africain et très simultanément le tenant du titre de la CAN et du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont écarté le Madagascar mardi en demi-finale 1-0. Si Algériens et Sénégalais ont une trajectoire similaire depuis le début du CHAN, il faudra un vainqueur à l'issue du duel en finale et celui-ci rentrera dans l'histoire.
Toujours en football, début réussi pour Al Ahly au Mondial des clubs qui se joue au Maroc.
Les Égyptiens ont dominé mercredi à Tanger. Les Néo-Zélandais d'Auckland City battus 3-0 en match d'ouverture de ce Mondialito. L'Afrique y est représentée par 2 clubs, Al Ahly du Caire et les Marocains du Wydad de Casablanca. Ces derniers jouent leur premier match samedi contre Al Hilal d'Arabie Saoudite et peuvent compter sur le soutien de leurs bouillants supporters. Vainqueur de la dernière Ligue des champions d'Afrique et champion national en titre, le Wydad de Casablanca espère faire aussi bien que son rival du Raja Casablanca qui avait disputé la finale contre le Bayern Munich, perdu à domicile 2-0 fin 2013. Ce tournoi regroupe 7 clubs et va se disputer jusqu'au 11 février.
JO 2024, les États-Unis se sont prononcés en faveur de la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques sous bannière neutre et sans emblèmes nationaux.
Cette prise de position relance un débat qui prend de l'ampleur à l'approche des JO 2024 de Paris. Si des athlètes sont invités à un événement sportif international comme les JO, il doit être absolument clair qu'ils ne représentent pas les États russes ou bélarusses, a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. L'utilisation des drapeaux russes et bélarusses d'emblèmes ou d'hymnes doivent aussi être interdits. Les États-Unis ont soutenu la suspension des instances sportives de la Russie et du Bélarus des fédérations sportives internationales, a-t-elle rappelé. La participation ou non de ces sportifs aux Jeux Olympiques de 2024 est une question aussi sensible que politique.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sebouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le pape François, en visite en République démocratique du Congo, a reçu mercredi une délégation des victimes d'atrocités dans l'est de ce pays. Atrocités qu'il a dénoncées avec véhémence lors de sa première messe. Le souverain pontife a aussi appelé au pardon, à la paix et à la réconciliation. Eddy Issango a joint à Kinshasa l'abbé Jean Bosco Bahala du diocèse de Bukavu dans le sud Kivu.
Le problème justement de l'est du pays, c'est l'impunité dans laquelle on a laissé tous ceux qui ont commis des massacres, tous ceux qui ont commandité la violence dans ce coin du pays. Tant qu'on n'aura pas fait activer des mécanismes de justice transitionnelle, des mécanismes de réconciliation, mais aussi des mécanismes de justice internationale pour punir les auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis, il n'y a pas de possibilité que les peuples oublient, parce que les gens ne peuvent pas oublier tout ce qui s'est passé. Puisque ça se répète, on voit que les mêmes personnes...
Est-ce que c'est ce que le pape a demandé dans son message?
Exactement. Dans son message, il a parlé de justice. Il a dit que la justice était très importante. Il a dit également que l'on ne peut pas vivre sans justice. Et la justice accompagne justement le pardon. C'est cela le vrai message que nous avons retenu. Nous avons retenu que le pape voudrait que le cœur soit réconcilié pour qu'on ne s'enferme pas dans le mal, qu'on ne s'enferme pas dans la rancœur. Mais aussi, il faut que l'État, que le monde entier, c'est là l'interprétation qu'il a faite d'ailleurs. Il a dit laisser l'Afrique vivre, laisser le Congo vivre. On ne peut pas considérer le Congo comme simplement une terre à exploiter et comme une mine à exploiter. Il a parlé du Congo comme d'un diamant précieux sur lequel il ne faut pas que vienne la corrosion justement de la haine, de la violence et que ce soit un diamant qui puisse briller pour tout le monde. Et c'est cela que nous attendons.
Vous êtes de l'Est, le pape devait recevoir une délégation des gens qui sont venus de l'Est. Quel est le message que la délégation lui a apporté?
La soif de paix, toutes les populations qui ont vécu les massacres, les violences et qui les vivent encore aujourd'hui, qui sont jetées sur les rues, vont devoir revenir la paix pour qu'ils vivent normalement. Et ils attendent justement que la voix du pape qui porte puisse être celle qui éveille le monde entier à la réalité de la souffrance des peuples qui sont à l'est du Congo et qui souffrent depuis 25 ans, 30 ans sans le mériter, parce que ce sont des peuples pacifiques et qui aimeraient vivre dans la paix.
Vous qui êtes de l'Est, est-ce que vous pensez que les populations sur place vont entendre et appliquer ce que le pape a demandé? Et il n'y a pas que dans l'Est, il y a aussi dans l'Ouest où parfois la cohabitation est difficile.
Mais oui, écoutez, nos peuples ne sont pas des peuples qui cultivent la haine ou la violence de façon permanente, non. Aujourd'hui, les peuples congolais, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, veulent vivre dans la paix et veulent jouir des richesses dont le Seigneur a doté notre pays dans la paix. Mais comme vous le savez, effectivement, il y a un travail de réconciliation qu'il faut faire. Il y a un travail, justement, de mise en route de cette volonté du vivre ensemble par le gouvernement qui doit, justement, créer les conditions du vivre ensemble et par l'établissement de l'autorité de l'État et aussi par cette volonté de la communauté internationale de laisser vivre nos peuples.
L'abbé Jean Bosco Bahala, prêtre du diocèse de Bukavu. Le pape François est attendu ce vendredi au Soudan du Sud. C'est sa première visite dans le pays le plus jeune du monde, plongé dans une longue guerre civile. Un reportage de Sheila Pony à Djouba. Le récit est de Nani Talami.
La chorale de l'église catholique de Djouba répète une chanson écrite pour accueillir le pape François au Soudan du Sud. Les rues de la capitale ont été remises à neuf, les bâtiments repeints pour accueillir le pape âgé de 86 ans. Paul Angé est du bureau du président sud-soudanais.
Près de 90% du travail est fini.
60% des 11 millions d'habitants de ce pays sont chrétiens, la plupart catholiques. Le père Samuel Abbé dirige l'équipe qui prépare la visite papale.
Nous aimerions voir que la visite du Saint-Père nous apporte plus de bénédictions afin que le peuple du Soudan du Sud puisse coexister dans la paix et vivre ensemble comme des frères et sœurs.
Le pape doit tenir une messe en plein air au mausolée pour le docteur John Garang, père de l'indépendance du Soudan en 2011. Il va rencontrer également quelques-uns des 2 millions de personnes déplacées qui ont fui les violences dans le pays. Le pape est accompagné par le chef de l'église anglicane et celui de l'église d'Écosse dans ce que le Saint-Siège appelle un pèlerinage de paix non confessionnel. L'archevêque Justin Badi Arama est à la tête de l'église anglicane au Soudan du Sud.
Their presence in Juba, the capital city of South Sudan,
leur présence à Juba est peut-être une façon pour Dieu de nous rendre visite, pour inverser et minimiser tous nos défis et permettre à nos dirigeants d'avoir cet esprit de confiance plus fort les uns pour les autres, cet esprit du sacrifice de soi, pour mettre en œuvre ce qui reste de l'accord de paix qui n'est pas encore mis en œuvre.
L'accord de paix, signé le 12 septembre 2018, n'a pas mis fin à la crise. Le pape François va venir de la République démocratique du Congo, qui, selon le Vatican, compte la plus grande population de catholiques en Afrique. Emmanuel Adil Anthony est le gouverneur de l'État de l'Équateur, qui englobe Djouba dans le centre du Soudan du Sud.
We have informed our people to be ready to receive the Pope.
Nous avons informé notre peuple d'être prêt à recevoir le pape dès l'aéroport à l'arrivée du pape venant de la République démocratique du Congo. Le président de la République a annoncé que 2023, l'année de la visite du pape, doit être une année de paix et de réconciliation.
Les deux frères ennemis, le président Salva Kiir ainsi que le leader rebelle et ancien vice-président Riek Machar, ont déjà été reçus en 2019 par le pape François. Leur rivalité a déclenché depuis 2013 une guerre civile sans fin qui a fait plus de 400 000 morts.
Au Togo, le projet Ghetto fait son chemin à Lomé. Il s'agit d'un programme pour aider les jeunes qui ont traversé des épreuves difficiles comme la consommation de drogue à sortir du ghetto de la marginalité. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Amène Assignon.
Dans ce repère de toxicomanes situé au quartier Baie à Pédomé, à Lomé, Julien et quelques-uns de ses amis font la ronde pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Julien est aussi l'un des résidents de cet endroit peu recommandable, communément appelé ghetto, et dans lequel il vit depuis un an et demi. Il fait partie de ces jeunes sans repère, en proie aux stupéfiants.
Moi particulièrement, je n'avais pas de support. Je ne suis pas dû tomber du ciel, mais quand même, je n'avais pas de support. Et en plus, les mauvaises compagnies ont fait que je suis rentré à ghetto et je fume.
Il y a quelques mois, Julien a fait le choix de reprendre sa vie en main. Il s'est inscrit à un programme d'appui à la réinsertion des jeunes issus des ghettos. Dans ce centre de formation, Julien et d'autres bénéficiaires sont formés en artisanat pour leur réinsertion professionnelle. Djamessi Kofi Aminyon est l'un des formateurs.
Donc on les apprend l'artisanat. Donc particulièrement le macramé et les tissages des lits picots, les sacs en nylon, tout ce qu'on peut tisser avec la main, avec les fils, les nylons, donc c'est ce que nous les apprenons. Nous leur faisons une formation psychopédagogique parce que ce sont des gens que psychologiquement on doit travailler avec eux.
En 6 mois, le programme a accompagné une vingtaine de jeunes. Le travail a consisté à les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et à leur apporter un soutien socio-sanitaire, psychologique, pour leur prise en charge et leur réinsertion intégrale dans la société. Un pari réussi selon les initiateurs du projet. Écoutons le maire de la commune Golf 1, Kwami Gomado.
Ça fait pratiquement 6 mois qu'on a commencé. Les résultats sont concluants puisqu'il y a les vingtaines de personnes qu'on a mobilisées qui sont toujours là pour suivre la formation et même sont déjà prêts pour qu'on puisse leur donner les moyens pour s'installer.
Ce programme est destiné à créer un impact significatif dans la vie de ces jeunes issus des ghettos et leur montrer que des solutions existent pour les aider à arrêter la consommation de la drogue et sortir de la précarité. Pour Julien, ce programme a été salvateur.
Oui, les méfaits de la drogue, c'est nuisible, ça nous tue, petit feu. C'est pas bon. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, connaissances. Deuxièmement, ça m'a beaucoup changé mentalement. Ça fait que bon, j'ai quelque chose en main. Et si je n'ai pas de la thune, je peux aller faire mon travail pour gagner de la thune. Ça m'a beaucoup plu.
Lomé, la capitale, compte plus d'une cinquantaine de ghettos. C'est dire à quel point le sujet interpelle. Ce projet n'est qu'à sa phase pilote, mais les résultats déjà obtenus constituent un modèle qui peut être répliqué dans d'autres communes du pays pour lutter contre l'insécurité. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Cette semaine au Sénégal, les acteurs culturels, notamment ceux du mouvement hip-hop, se sont levés comme un seul homme pour demander la libération du rappeur Nick Doff, proche de l'opposant Ousmane Sonko. Il est en prison pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menace de mort sur les autorités judiciaires. Une situation qui relance le débat sur la présence des artistes dans l'espace politique. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
L'engagement des acteurs culturels ne date pas d'aujourd'hui. Du temps du président Abdou Diouf déjà, des voix jaillissaient du monde de la culture pour réclamer des droits civiques et politiques. Un engagement qui s'intensifie. Pour DJ Baron, il n'y a rien de plus normal que cela.
Les acteurs culturels ont toujours été engagés pour aux événements qui se passent dans le pays. Parce qu'eux, ils se sont déjà engagés, c'est-à-dire que être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, c'est-à-dire représenter la population, la basse classe qui sont là, représenter ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir un micro tendu envers eux. Ils ont toujours été là pour la population.
Un engagement légitime qui doit aussi être permanent, d'après Alexis. Pour cet agent commercial, les acteurs culturels doivent s'investir pour le bien-être des populations.
En tant qu'acteurs culturels, en fait, ils sont aptes à aller voir nos guides pour pouvoir exposer le problème en tant que tel. Bah, moi, je trouve que c'est normal. Ça va les valoriser, en fait, parce qu'un acteur culturel, tu dois aussi te soucier de ton pays. C'est pas quand il y a la fête, tu pars, tu encaisses l'argent, tu fais des concerts, mais à un moment donné aussi, tu dois savoir que tu es un citoyen sénégalais et tu es un porteur de voix et tu dois aussi te battre pour la société.
Moussa Sané n'est pas du même avis. Pour cet étudiant, l'implication des acteurs culturels peut avoir un impact négatif sur leur carrière.
Ils ont aussi des carrières à gérer. Il peut y avoir des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où certains ont l'habitude de se mettre en colère sur une personne si toutefois il dit quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Alors si jamais un acteur culturel s'engage dans l'arène politique et toutefois il dit quelque chose qui n'arrange pas ce qu'il écoute le plus souvent, comme ça pourrait voilà, mettre en péril, entre guillemets, sa carrière.
Des répercussions négatives, comme c'est le cas actuellement pour le rappeur Nick Doff, même si certains, comme DJ Baron, pensent que ce dernier a un peu exagéré lors du direct sur les réseaux sociaux qui lui a valu son incarcération.
Nick Doff veut admettre qu'il a fait des erreurs. Je ne vais pas dire qu'il a fait une erreur ou quelque chose comme ça, mais il a fait des erreurs. C'est-à-dire, être déjà engagé, c'est le respect. Il est modèle, parce que beaucoup de jeunes le suivent à travers ce qu'il fait. C'est la musique et tout. C'est un exemple. Il a fait une boucle et il doit l'admettre.
Que ce soit pour élire, détrôner, réclamer ou magnifier, les acteurs culturels sénégalais sont souvent au devant de la scène et s'engagent de plus en plus auprès d'hommes politiques. Même si les fortunes sont diverses selon qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, les Sénégalais estiment que l'engagement doit se faire au bénéfice de la société et pour le bien des populations. C'est Dina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma. À la console, Kenneth Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'équipe de VOA Afrique. We'll be right back.